Vous écoutez On lit pour vous.
Un combat inachevé, un texte d'Isabelle Morin, paru le 29 mai 2025 dans la presse. Si l'avènement des antihistaminiques a été une véritable révolution thérapeutique pour combattre le rhume des foins, la prévention demeure un enjeu majeur et est plus que jamais problématique, selon le biologiste et professeur Claude Lavoie, qui considère l'herbe à poux comme la plante la plus dommageable au monde pour la santé humaine et qui publie un ouvrage complet lui étant consacré. L'herbe à poux mérite-t-elle une place à part dans les allergènes saisonniers? Absolument. Et par une très grande longueur d'avance. Je ne connais pas d'autres plantes qui affectent 120 millions de personnes à l'échelle mondiale. Elle est particulièrement redoutable par son pollen, mais elle a aussi un impact sur l'agriculture et la biodiversité. Pourquoi autant de gens y sont-ils sensibles? Peu de plantes produisent autant de pollen. Un seul plant peut produire des milliards de grains qui sont transportés par le vent et certaines personnes très sensibles peuvent réagir à partir de seulement 20 grains par mètre cube. Le système immunitaire les identifie comme une menace et se défend en déclenchant une libération d'histamine qui crée les symptômes qu'on connaît, des yeux qui piquent, le nez qui coule, des maux de tête, etc. Dans les années 1940, dit Claude Lavoie, la saison du rhume des foins s'étalait, au plus, sur 24 jours. Elle s'étire aujourd'hui sur près de 90 jours. Qu'est-ce qui la rend si difficile à contrôler? C'est une plante pionnière. Puisque son cycle de vie est court, elle s'adapte rapidement à son environnement et pousse autant dans des sols riches que pauvres. L'herbe à poux pousse particulièrement bien dans des habitats perturbés par les humains, et il y en a beaucoup plus que des habitats vierges. Comme on perturbe sans cesse les milieux, avec des routes, du défrichage, des cultures intensives comme le soya, qui est un véritable terreau pour herbe à poux, elle trouve toujours de nouveaux espaces où s'installer. Par ailleurs, elle est probablement la plante la plus résistante aux herbicides en Europe et en Amérique du Nord. A-t-elle des points faibles qui peuvent être exploités pour la combattre? Elle ne supporte ni le gel ni l'ombre. Le problème, c'est que ses faiblesses sont de moins en moins valables. Comme on tond les friches, on élimine la végétation qui pourrait lui faire concurrence et on crée des espaces ensoleillés qui sont parfaits pour elle. Avec le réchauffement climatique, la saison de l'herbe à poux est aussi de plus en plus longue. La plante colonise donc de plus en plus de territoires. À ce rythme, quel portrait se dessine? Il n'est pas encourageant. On est passé d'environ 1% de la population affectée au début du siècle à plus de 20% aujourd'hui. Et ça augmente. Ce qu'on observe ici, on le voit aussi en Europe et en Chine, où l'on pense que la moitié du pays sera bientôt envahie par l'herbe à poux. Ici, la tendance est que les gens seront malades plus tôt, plus longtemps et plus intensément. La saison qui durait autrefois 2 semaines pourra s'étirer sur des mois. L'herbicide n'a jamais été une solution et ne le sera jamais, rappelle Claude Lavoie. Comment peut-on agir pour en venir à bout? Il faut changer de stratégie. Il ne s'agit pas de l'éradiquer complètement, ce qui est irréaliste, mais on peut contenir sa progression. Pour cela, il faut faucher mieux et aux bons endroits, notamment sur les bords des routes. et implanter des plantes compétitives comme le mélilot. En agriculture, problème le plus urgent, il faudrait revoir nos pratiques pour éviter que la plante trouve un terrain propice en maintenant, par exemple, un couvert végétal toute l'année et en faisant de meilleures rotations de plantation. C'est faisable, mais ça demande un changement de mentalité. Ce n'est pas gagné d'avance. Plusieurs initiatives ont été entreprises pour lutter contre ce problème. A-t-on depuis jeté l'éponge? Oui. L'arrivée des antihistaminiques dans les années 1940 a marqué un tournant. On a préféré traiter les symptômes plutôt que de s'attaquer à la cause. On a tenté de relancer des campagnes de lutte dans les années 1990 et 2000, mais elles ont été éphémères. Quels sont vos meilleurs arguments pour convaincre certains de passer à l'action? Il y a celui de la santé publique. Une personne sur cinq est allergique et ce chiffre est appelé à augmenter. Ce n'est pas marginal. Tout ça engendre des coûts en soins médicaux et en baisse de productivité. D'un point de vue environnemental, si on continue d'épandre des herbicides pour lutter contre l'herbe à poux, on crée des problèmes environnementaux. Un peu d'histoire. Identifiée au 19e siècle, l'herbe à poux n'a été reconnue comme source d'allergie qu'au début du 20e siècle. L'histoire médicale a vu défiler un arsenal de moyens pour combattre le rhume des foins, des remèdes les plus anodins et parfois loufoques aux plus dangereux. On peine à l'imaginer, mais avant l'avènement des antihistaminiques, il existait des refuges touristiques destinés aux allergiques. Des destinations comme Cacouna, Mont-Tremblant et Tadoussac. Longtemps ridiculisée et considérée comme une maladie de riche, cette affection aura pourtant eu des conséquences dramatiques à une époque. La souffrance de certains malades les conduira jusqu'au suicide et provoquera même un triple meurtre, comme le relate, parmi d'autres anecdotes, l'ouvrage de Claude Lavoie. C'était « Un combat inachevé », un texte d'Isabelle Morin, paru le 29 mai 2025 dans La Presse.
La saison touristique sera affectée par les restrictions en immigration au Québec. Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir. Alors que plus de Québécois choisissent le tourisme local cet été, hôtels et restaurants ressentent les effets des resserrements en immigration avec une saison qui s'annonce déjà un casse-tête du point de vue du personnel d'Alma à Gaspé, en passant par Rouyn-Noranda. Les besoins sont criants et on réclame des solutions urgentes pour sécuriser notre main-d'œuvre, dit ainsi Véronique Tremblay, présidente directrice générale de l'Association hôtellerie du Québec, AHQ. L'assouplissement souhaité en priorité, dit-elle, est de revoir le plafond de 10 % de travailleurs étrangers temporaires payés sous le salaire médian, réimposé par Ottawa à l'automne 2024, ainsi que par Québec pour les régions de Montréal et de Laval. Résultat, les permis de travail qui viennent à échéance ces jours-ci sont souvent impossibles à renouveler. Même si les joueurs de l'industrie tentent de se faire rassurant, les Québécois et les touristes d'ailleurs pourraient le remarquer durant leurs vacances avec des heures d'ouverture écourtées, des nettoyages de chambres moins fréquents ou même des hébergements partiellement fermés. On voit déjà l'effet des resserrements. Plus les exploitants perdent des travailleurs étrangers temporaires, plus ils doivent se rabattre sur des choix comme fermer certaines journées, admet aussi Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration Québec. Des gens qui sont là depuis nombre d'années, qualifiés, formés et accueillis par la communauté, on est obligé de les congédier, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que le gouvernement a décidé de changer le plafond, déplore aussi Geneviève Quentin, présidente directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Dans un contexte où toute la province s'inquiète du contexte économique à cause des tarifs douaniers américains, les grandes associations de l'industrie rappellent que le tourisme est le quatrième secteur d'exportation au Québec. On parle de 4,1 milliards de dollars en entrée de devises étrangères pour l'année dernière seulement, expose Mme Quentin. Il va falloir qu'on arrête de mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs, ajoute-t-elle. C'est un ajustement, pas une faveur, énonce aussi Mme Tremblay. Des hôteliers rapportent en effet déjà avoir dû mettre à pied une partie de leurs travailleurs, souvent recrutés à grands frais à l'étranger, alors que 91% d'entre eux rapportent avoir des difficultés à embaucher pour la saison estivale et automnale, selon un sondage effectué en avril 2025 par l'AHQ. La majorité des répondants, 70%, ont plus que le seuil maximal de 10% de travailleurs étrangers temporaires dans leur équipe. Les mesures récentes les priveront de 3 à 10 travailleurs par établissement dans des postes difficiles à pourvoir localement. Clause grand-père réclamée. Le plafond était de 30% pour certains postes il y a quelques mois et les changements sont survenus trop rapidement, indique Véronique Tremblay. Face à cette vitesse, les associations de l'industrie réclament le pouvoir d'au moins sauver notre monde, dit-elle, c'est-à-dire les travailleurs déjà sur place dont les permis vont bientôt expirer. Jean-François Côté est directement touché et appuie cette idée d'une forme de droit acquis. Propriétaire de 6 hôtels dans plusieurs régions du Québec, il explique que des emplois en entretien ménager ou dans les postes d'accueil ne trouvent tout simplement pas preneur. Ces établissements de grande chaîne connus comme Quality Inn ou Comfort Inn comportent jusqu'à 100 chambres, mais ne peuvent pas toujours fonctionner au maximum de sa capacité. L'hôtel qu'il possède à Rouyn-Noranda a notamment bénéficié de l'élan d'une jeune communauté colombienne. Nous avions des employés exemplaires, qui ne causaient pas de problème et qui ne souffraient pas d'isolement, décrit M. Côté. Devant l'incertitude des renouvellements de permis, des employés colombiens ont décidé de repartir ou de chercher du travail ailleurs. Retour à la case départ pour les gestionnaires qui font des pieds et des mains pour trouver des remplaçants. Je comprends les enjeux de logement et d'intégration, mais je ne pense pas qu'à Alma, ça va dénaturer le tissu social des régions. Ils ne vont pas angliciser la région. Il n'y a pas de phénomène de ghettoïsation à Rouyn-Noranda, pense le propriétaire hôtelier. Gardez au moins les travailleurs qui sont déjà ici, exhorte-t-il. Pas une question de conditions. Les joueurs de l'industrie sont unanimes. Ils ont essayé de recruter localement, y compris parmi les étudiants en congé estival pour des postes sans besoin de formation prolongée. Aucun exploitant ne se réveille en se disant « Je suis très heureux de payer des milliers de dollars et de gérer toute la lourdeur administrative pour les travailleurs étrangers temporaires. » Ils préféreraient prendre quelqu'un qui a un statut au Canada, abonde aussi Martin Vézina. La question des horaires atypiques revient souvent. Les jeunes qui déposent leur CV disent souvent préférer des horaires de jour et travailler durant la semaine, poursuit-il. Mais les clients ne viennent pas le mardi midi, ils sont là le samedi soir. Le problème est aussi plus aigu dans certaines régions où la compétition est rude entre les entreprises pour recruter. M. Côté précise par exemple que les postes qu'ils affichent sont sous convention collective, mais le marché du travail en Abitibi-Témiscamingue offre des emplois très généreux. Les autres branches du grand domaine bioalimentaire ont pourtant été épargnées par les restrictions de la production à la transformation. Notre mandat est aussi de nourrir des gens, remarque M. Vézina. L'agriculture, une activité saisonnière, par définition, ne possède aucun plafond d'embauche à sa main-d'œuvre temporaire. On a une belle offre multisaison, mais l'été est beaucoup plus important. C'est là que ça se passe, donc on se questionne à savoir pourquoi on n'a aucune exemption, renchérit aussi Mme Quentin. C'était la saison touristique sera affectée par les restrictions en immigration au Québec, un texte de Sarah R. Champagne paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir.
Pour saluer Victor Lévy Beaulieu, 1945-2025. Un texte de Chantal Guy, paru le 10 juin 2025 dans La Presse. J'ai rencontré une seule fois dans ma vie le vrai démon de l'écriture. Victor Lévy Beaulieu, mieux connu sous le sigle de VLB. En 2008, j'avais fait le voyage avec le photographe François Roy à Trois Pistoles pour la sortie de son roman « La grande tribu ». C'est la faute à Papineau. Découragé par le chemin que prenait le Québec, VLB affirmait qu'il était prêt à brûler toute son œuvre si ce chemin-là menait vers la disparition de son peuple. « Mon désarroi est grand aujourd'hui », avait-il déclaré. Ce Québec français, indépendant, pacifiste, soucieux des minorités souffrantes d'ailleurs, on est en train de nous l'enlever. J'y voyais un autre coup d'éclat dont il avait le secret, lorsqu'il a jeté son bouquin dans le poêle à bois de sa maison ancestrale. Mais, prise au dépourvu par le geste, comme tous les journalistes présents, et comme j'étais dans l'angle de la photo de François, on lui a demandé d'en brûler un deuxième pour immortaliser le moment. Près de 900 pages par exemplaire, deux fois dans le foyer, il faisait chaud en maudit dans la cabane, où on se sentait toasté des deux bords. Avant cet autodafé, il m'avait montré ses manuscrits. Il écrivait à la main. Et sans rature. Il préférait réécrire une page plutôt que de laisser la moindre coquille. Incroyable, mais vrai. Je lui reprochais intérieurement parfois de trop écrire, de nous envoyer des briques sur la gueule et de n'avoir aucun sens des proportions. J'ai toujours pensé qu'il était devenu éditeur pour que personne ne puisse couper, à part lui, le moindre mot de ses écrits, ce qui donnait des ouvrages monstrueux de milliers de pages qu'il rééditait en version de luxe, numérotée par l'auteur, dans de beaux coffrets et dont la tranche était dorée. Le genre de livre dont on n'ose pas se débarrasser. J'en ai trois à la maison, et c'était probablement ça le but. Ce fut l'une des rencontres littéraires les plus marquantes de ma vie. Il m'avait accueilli en pestant contre la maudite traque de chemin de fer de John A. MacDonald, qui a voulu faire du Canada un pays d'un océan à l'autre parce que le train avait fauché trois chiens de sa meute. J'ai vu ça comme un signe du destin, avait-il dit, en tirant sur sa pipe, entouré de ce qui restait de sa ménagerie. Il adorait les animaux, et parmi près d'une centaine de livres publiés, son plus grand succès de vente aura été « Ma vie avec ces animaux qui guérissent », préfacé par Georges Larac. Au Québec, je ne voyais que trois écrivains nobélisables. Marie-Claire Blais, Michel Tremblay et Victor Lévy Beaulieu. S'il était flatté de se faire dire cela, selon lui, aucun écrivain québécois ne pouvait recevoir le Nobel tant que le Québec n'était pas un pays. Pourtant, il n'y a pas d'équivalence en littérature québécoise d'une œuvre aussi monumentale que la sienne. Il est certainement l'écrivain qui a le plus écrit dans toute l'histoire du Québec. Et je me demandais d'où ce flot incessant venait à son âge, quand beaucoup de jeunes auteurs peinent à écrire plus de 3 livres. Il m'avait répondu qu'il y a des écrivains qui sont des rivières, d'autres sont des fleuves, d'autres des océans. Il avait raison, mais les dimensions de cette œuvre-là, absolument hors normes, dans le style comme dans la production, le plaçait dans une catégorie à part. D'ailleurs, cette œuvre incernable pour le commun des mortels a donné naissance à la Société d'études beaulieusienne, c'est tout dire. Je l'appelais « l'ogre de 3 pistoles » quand il m'envoyait son nouveau livre qui allait écraser à coup sûr ma rentrée littéraire. C'est ce mot « ogre » qui vient aussi à la bouche de l'auteur Kev Lambert, qui a fait son mémoire de maîtrise et de doctorat sur l'œuvre de VLB. C'est une sorte d'ogre littéraire qui dévore toutes les matières langagières disponibles et qui les recrache à sa manière, comme il dévorait un peu tous les grands écrivains pour les recracher ou les digérer dans des livres qu'il a écrits à leur sujet, comme Melville ou Joyce, qui sont parmi ses meilleurs, je trouve. Moi aussi, je ne me suis jamais tout à fait remise de la lecture de son essai hilar, James Joyce, l'Irlande, le Québec, les mots, un chef-d'œuvre de torture de la langue. Il représente un peu la figure de l'écrivain total qui a œuvré dans à peu près tous les champs culturels possibles. Poursuit Kev Lambert, qui rappelle que VLB a écrit des romans, des essais, la biographie de Rambo Gauthier, un livre de recettes sur le yogourt avec Sœur Berthe, des pièces de théâtre, des correspondances et des entretiens, beaucoup de pamphlets dans les journaux, en plus d'avoir écrit des téléromans qui ont traumatisé des générations de téléspectateurs. Il y a quelque chose de mégalomane dans son ambition littéraire, mais artistique en général, souligne Kev Lambert. Je pense que pour lui, la littérature a toujours été un art populaire, mais au sens le plus noble du terme. Il a toujours souhaité parler au plus grand nombre, mais en ne faisant jamais un art populiste pour autant. Ses livres sont exigeants. C'était le roman aussi, dont l'écriture n'était pas du tout réaliste ou naturaliste, avec cette espèce de langue impossible qu'il creuse. Car VLB, c'est d'abord une langue hallucinée et hallucinante. C'est un styliste important, estime Kev Lambert. Le style et la langue de VLB, c'est quelque chose d'unique. Il n'y avait pas d'avant et il n'y a pas vraiment eu d'après. Tu as l'impression d'entendre un monsieur saoul accoudé à un bar qui fait juste raconter des histoires sans queue ni tête, avec plein de vulgarité, mais aussi des éclats de beauté, des fulgurances, des moments rabelaisiens, dans un mélange entre le littéraire le plus précieux et l'oralité, le joual. Si Kev Lambert ne partage à peu près rien sur le plan politique avec VLB, sa fascination pour son œuvre est grande, car elle montre, à son avis, l'envers du rêve souverainiste. Ce qui est intéressant chez lui, et que même s'il pouvait avoir des positions nationalistes dans l'espace public, son œuvre ne donne pas du tout une vision héroïque du peuple québécois. Au contraire, ces personnages sont tous des fous délirants, des hallucinés, des criminels. Ils ne montrent pas vraiment le Québec que les nationalistes voudraient voir. Il y a toujours une tension entre ce que son œuvre porte comme regard et son engagement souverainiste. À l'adolescence, Victor Lévy-Beaulieu rêvait d'écrire le grand roman québécois, comme Victor Hugo, dont il partageait le prénom et l'ambition, l'avait fait pour la France. Un rêve qu'il a caressé pendant des décennies et qui a changé, selon Kev Lambert, lorsqu'il a fait ses recherches pour son « Manuel de la petite littérature du Québec ». De mon point de vue, son nationalisme va se transformer pour devenir une sorte d'anti-nationalisme dans ses romans. Il va réaliser que le grand livre qu'il voulait écrire ado était impossible parce qu'il ne correspondait pas à la réalité québécoise, traversée par la domination, l'aliénation. C'est vraiment comment il voit ça, une sorte de peuple un peu psychotique. Tout ça va le mener à écrire l'envers du roman national québécois, en essayant de le salir, de pourrir ce récit national de l'intérieur. C'est ce mélange troublant entre la mégalomanie et l'ambition littéraire qui intéresse particulièrement Kev Lambert. VLB voulait être un grand écrivain, mais ce dont il parle, c'est juste de l'aliénation, de la négativité, de la noirceur. Il parle toujours du pire chez l'être humain, comme s'il avait été seulement capable d'aller vers le plus sombre, le plus traumatique, le plus perturbant, le plus scandaleux. En fait, l'œuvre de VLB, c'est l'inconscient du Québec mis au jour, dans toute sa splendeur terrifiante. Chez lui, on pouvait voir une pancarte « Danger, écrivain méchant ». Un ogre, vous dis-je, qui aura marqué pour toujours notre littérature, dont il n'a fait qu'une bouchée, en publiant sans cesse, jusqu'à la fin, et que personne ne pourra remplacer. C'était pour saluer Victor Lévy-Beaulieu, 1945-2025. Un texte de Chantal Guy, paru le 10 juin 2025, dans La Presse.